Merci. Eh bien, bonjour à chacun. Il y a certaines personnes que je ne connais peut-être pas, mais bon, je m'appelle Valdo Daiglon. Voilà, je suis un ancien de l'Église. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre des psaumes. Pour ceux qui étaient là il y a un an, nous avions en été un programme particulier. Nous avions vu le psaume 23. Mais nous poursuivons aujourd'hui, puisque c'est l'été, avec le psaume 24. Mais d'abord, quelques mots sur les psaumes 22, 23 et 24. Ces psaumes, vous vous situez dans la Bible, donc au début des psaumes, ces psaumes sont des textes qui se réfèrent à des événements historiques vécus par David, mais aussi à des événements prophétiques, non encore réalisés quand ces textes ont été écrits. Et le psaume 22, par exemple, correspond à des événements vécus par David, mais il nous présente aussi et surtout de manière prophétique Jésus, le Messie, donnant sa vie pour ses brebis. Et ce psaume 22 commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est une parole que Jésus a prononcée au moment de la crucifixion. Mais donc ce psaume 22, concerne le passé et il est réalisé déjà. Le psaume 23 que nous avons vu précédemment, eh bien, nous voyons l'Éternel que David a vraiment connu personnellement comme étant le bon berger. Et nous pouvons aussi considérer aujourd'hui que Christ accomplit pour nous les bons soins du bon berger décrits dans ce psaume. Et on sait que dans l'évangile de Jean en particulier, Jésus lui-même, Jean chapitre 10, verset 11, nous dit que « je suis le bon berger ». Et là, nous sommes donc dans une réalité présente, parce que nous pouvons nous aussi aujourd'hui dire que Jésus est notre bon berger, avec ce psaume 23. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire maintenant le psaume 24, qui fait suite à ces deux psaumes 22 et 23. Psaume de David, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui-là, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Et là, David fait une pause dans son psaume. Je propose quelques secondes de pause aussi. Et David poursuit avec des termes « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Voilà la lecture de ce psaume. Et il se termine aussi par une pause qui est voulue par l'auteur du psaume. D'abord, ce psaume relate des réalités historiques vécues par David lui-même lors du retour de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors, si vous avez lu le deuxième livre de Samuel, eh bien, vous pouvez retrouver ce texte où David assiste au retour de l'Arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Mais aussi, ce psaume nous parle d'événements prophétiques réalisés du temps de Jésus, comme par exemple la préfiguration de cette future entrée dans Jérusalem lors de l'arrivée de Jérusalem, non pas en roi de gloire forcément encore, mais sur le dos d'un ânon, exemple, on voit ça en Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 17. Vous avez ce texte qui nous parle du retour de Jésus à Jérusalem. Mais ce psaume 22 nous parle aussi et surtout d'événements prophétiques à venir, c'est-à-dire non encore réalisés. Et ce psaume célèbre l'entrée du Seigneur, le grand berger, dans la cité royale. Et le texte dit que c'est la montagne de Sion. Et cette réalité prophétique, qui n'est donc pas encore réalisée, est confirmée par l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 5, verset 4. Et je vais lire à partir du verset 1 pour que vous ayez un peu le contexte. « Voici donc les recommandations, dit Pierre, que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. » Et Pierre dit, « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Et là, Pierre évoque ce point-là, qui a un lien avec ce psaume. « Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle aussi de la Jérusalem céleste, au chapitre 12, verset 22, et de la réception d'un royaume inébranlable. On ne peut pas lire tous les textes, mais... Donc c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, qui est vers la fin du Nouveau Testament. Donc il est question de cette nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste, et de la réception d'un royaume inébranlable. Et on peut dire ainsi que le psaume 22 conduit à la croix. On l'a vu tout à l'heure en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite, on voit la crucifixion de Jésus. Le psaume 23, quant à lui, nous conduit au temple, à la maison. Et le psaume 24, lui, nous conduit au trône de gloire, qui n'est pas encore là, mais qui est à venir. Vous voyez cette gradation, psaume 22, le passé avec Christ. Psaume 23, aujourd'hui, nous pouvons, nous, qui sommes au Seigneur, dire « L'Éternel est mon berger ». Et le psaume 23 nous conduit au règne de gloire qui est à venir, que nous espérons. Et selon le Talmud, qui est ce recueil des commentaires de la loi juive, ce n'est pas la Bible, mais c'est un écrit qui est quand même assez important pour comprendre l'Ancien Testament, eh bien, selon le Talmud, ce psaume 24, était chanté au temple le premier jour de la semaine, comme pour bien commencer la semaine. C'est un psaume pour se souhaiter une bonne semaine, un psaume pour prendre courage et pour vivre dans le monde qui nous entoure, qui, lui, n'est pas toujours favorable à Dieu. C'est un psaume pour nous rappeler que notre destinée est d'attendre le retour du Seigneur, ce roi de gloire qui va revenir. Ce psaume, donc, nous... Les Juifs, à l'époque, tous les lundis, premier jour de la semaine, ils se rappelaient que le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir et il va faire son entrée dans les portes éternelles. Donc, venons-en au texte directement maintenant, les versets 1 et 2 de ce psaume que je vais vous relire. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et il l'a affermie sur les fleuves. » Dans ce préambule, David nous rappelle deux réalités fondamentales. Première réalité, c'est que le monde est une fondation, une création de Dieu. Et la deuxième réalité, c'est que la terre, avec tout ce qu'elle contient et tous ceux qui l'habitent, appartient à l'Éternel. Sous-entendu que rien ne peut nous appartenir en propre. Et de plus, nous-mêmes, en tant qu'habitants de la terre, ce psaume nous dit que nous appartenons, nous, à l'Éternel. Nous sommes de fait des gérants de notre propre personne et des gérants de biens qui, en fait, appartiennent à Dieu. Et la prise de conscience de cette réalité peut changer bien des choses dans notre vie. C'est une bonne nouvelle pour nous, les croyants, car nous sommes rassurés de savoir que nous appartenons à un bon propriétaire. Mais ça change aussi notre attitude. Tout d'abord, notre attitude par rapport à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre vie, avec notre propre personne, avec notre corps. Nous ne devons pas nous négliger, ni d'ailleurs négliger les autres, parce que nous appartenons à l'Éternel. Et cela change aussi notre attitude par rapport aux autres, justement. Nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons pas agir comme si les autres n'existaient pas. Cela a des conséquences très pratiques sur nos relations familiales, sur nos relations de voisinage, sur nos relations au sein d'un même pays, sur les relations entre les pays, sur la gestion de la vie, sur la gestion de la santé. Tout est concerné par cette réalité que nous appartenons à l'Éternel. Et on voit bien, j'ai parlé des relations entre pays, avec les autres pays, vous voyez bien que on le vit en ce moment avec la guerre en Ukraine. Tout est interdépendant et on ne peut pas agir séparément comme si on était les seuls au monde. Voilà. Mais cette réalité que nous avons vue, que nous appartenons au Seigneur, change aussi notre attitude par rapport au contenu de la création. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec le contenu de la création, avec la nature. Cela a aussi des conséquences très pratiques sur notre gestion des ressources, les nôtres, mais aussi les ressources mondiales. Cela concerne évidemment l'environnement dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est profondément biblique. La création appartient à l'Éternel et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui appartient à l'Éternel. On voit de nos propres yeux que chaque fois que nous nous écartons de ce cadre fixé par Dieu, cela conduit à des difficultés et à des malheurs. Et le premier malheur de cet écart, de cet abandon du cadre fixé par Dieu, eh bien, c'était celui de la chute avec Adam et Ève. Mais depuis et jusqu'à nos jours, eh bien, la liste des malheurs, eh bien, elle est malheureusement bien fournie. Et chacun pourrait écrire un terme dans cette liste, même peut-être plusieurs. Donc, beaucoup de grains à moudre dans nos vies déjà, avec ces deux premiers versets du psaume 24, que la terre a été créée par Dieu et que nous appartenons, aussi bien la terre que nous, les créatures, nous appartenons à Dieu. Mais poursuivons. Après avoir rappelé avec force les fondements établis par Dieu et sa prééminence, David en vient à se demander qui est apte à monter sur la montagne de l'Éternel, qui est apte à se tenir dans son lieu saint, et il apporte une réponse à ses questionnements. Je vais relire les versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir sur son lieu saint? Et David apporte une réponse. Il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Et là, il y a la fameuse pause dont j'ai parlé. Deux fois, dans ces versets, David pose la question, qui pourra ? Qui pourra monter à la montagne ? Qui pourra être avec le Seigneur pour l'éternité? Face à la grandeur du Dieu créateur qu'il vient d'évoquer dans les premiers versets, ces deux « qui pourra » lancés par David témoignent de son humilité et de son désarroi, mais aussi de sa logique. En effet, humainement, personne ne peut par lui-même monter à la montagne de l'Éternel dans son lieu saint. personne ne peut se déclarer sauvé et disposé à rejoindre l'Éternel par lui-même. Et David, au verset 4, exprime les conditions pour cette rencontre avec l'Éternel. Elles sont très claires. Ces conditions reposent sur les exigences de la loi de Dieu, dans l'Exode, et c'est des exigences qui concernent les actes des mains innocentes, le texte nous dit, donc les actes, ce que font nos mains, des exigences concernant nos pensées, il parle d'un cœur pur, un cœur pur. Ça peut toucher la convoitise, l'adultère, etc., plein de choses qui sont dans les commandements, des 10 commandements. Et puis il y a aussi des exigences concernant les paroles. Hein. David dit pas de mensonge, pas de serment trompeur. Combien de fois on peut passer à côté de tout ça ? Celui qui remplit ces conditions obtiendra la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire le salut. Et David a bien compris quelles sont les conditions pour être sauvé, puisqu'il nous les a énumérées. Et ces conditions, eh bien, elles sont toujours les mêmes aujourd'hui. Mais nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas satisfaire à ces conditions. Peut-être que votre main va être favorable, va faire de bonnes actions, mais en même temps, votre pensée va avoir de mauvaises pensées, justement, votre cœur va avoir de mauvaises pensées qui vont à l'encontre de ces bonnes actions que vous pouvez faire. Donc, de plus, nous savons par le Nouveau Testament que seul Christ est digne de cet honneur. Lui seul possède les vertus d'innocence, de pureté, de piété, de droiture qui sont requises, qui sont mentionnées par David. Lui seul peut remplir ces conditions. Et vous savez aussi que quand nous venons à Christ dans la repentance, en lui demandant de nous sauver, c'est lui qui porte notre condamnation et qui transfère sur nous le salut. C'est-à-dire que Dieu nous voit comme au travers de Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, quand nous sommes convertis à Jésus-Christ, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus et nous sommes derrière Jésus. C'est-à-dire qu'il nous voit saints, il nous voit rachetés. Et c'est Jésus qui répond pour nous à ces critères pour obtenir le salut. Il nous pardonne et il nous restaure. Et il nous encourage à suivre son exemple de vie et à conserver notre communion avec Dieu. Et si tu n'as pas encore accepté ce salut en Jésus-Christ, je ne vous connais pas tous, peut-être que certains n'ont pas encore fait ce pas de se placer sous le salut offert par Jésus-Christ, eh bien, ne tardez pas, venez à Christ. C'est lui qui vous donne cet accès, finalement, au royaume et au Dieu de gloire. Et puis, si nous avons déjà clairement accepté ce salut en Jésus-Christ, ce texte, comme l'ensemble du Nouveau Testament, il nous encourage aussi à ne pas garder et à ne pas entretenir un péché dans notre vie, un jardin secret. Cette zone-là, elle est à moi. Seigneur, toi, tu peux t'occuper de tout dans ma vie, mais ça, non, c'est mon petit jardin secret. Eh bien, cette démarche de sanctification, eh bien, doit aller jusque dans ce jardin secret. Et nous devons confesser à Dieu, eh bien, ces péchés que nous voulons garder entre nous, pour nous. Et pour ceux qui connaissent la vie de David, eh bien, nous avons vu que l'exemple de sa repentance suite à son péché avec Bathsheba, quand il avait commis adultère avec une femme qui était une voisine de son palais. Non seulement il avait commis l'adultère, mais il avait aussi commis un crime. Il avait fait assassiner son mari pour pouvoir prendre sa femme. Et on a vu que suite à ça, Dieu lui a parlé par l'intermédiaire du prophète Nathan, en 2 Samuel 12. On voit ce cheminement où David, finalement, a dû reconnaître son péché et le confesser. Et on a un magnifique psaume de repentance de David dans le recueil des psaumes. Eh bien, nous sommes invités, alors nous n'avons pas tous été des criminels, peut-être pas tous des adultères, mais si on gratte dans notre vie, nous pouvons trouver des péchés que nous gardons par nous-mêmes. Eh bien, Dieu nous invite, au travers de ce psaume, à mettre de l'ordre dans notre vie. Et alors, troisième partie de ce psaume, après avoir rappelé que Dieu a créé la terre, après avoir précisé quels sont les critères pour rejoindre l'Éternel dans son lieu saint, David glorifie à nouveau l'Éternel, le maître de l'univers, en le désignant comme roi de gloire. C'est David qui appelle, lui qui était roi, hein, il fait appel au roi de gloire. Il sait que ce n'est pas lui. Nous savons que c'est Jésus. Lui, prophétiquement, il savait que ce serait le Messie. Mais aujourd'hui, nous en sommes sûrs, c'est le Messie. Et voilà ce que dit David. « Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Et il pose la question, « Qui est ce roi de gloire ?» Et il répond, « L'Éternel, c'est l'Éternel, si fort et si puissant. C'est l'Éternel puissant dans ses combats, dans les combats. » Et puis il continue au verset 9, il revient sur les mots « Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. » Et il repose la question, « Qui donc est ce roi de gloire ?» Et là, il répond, « C'est l'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. » Ces quatre versets évoquent deux fois l'entrée du roi de gloire. La première évocation, versets 7 et 8, souligne que l'Éternel est si fort et si puissant dans les combats. Et là, nous pouvons discerner la force et le combat de Jésus. Alors, peut-être pas visible avec les yeux de l'époque, mais nous pouvons discerner, quand Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un ânon, c'était pour ensuite aller à la crucifixion, se faire crucifier. Et cette crucifixion, eh bien, a été un combat solitaire entre Jésus contre Satan, mais un combat solitaire, douloureux, mais ô combien salutaire pour nous, car c'est ce combat qui nous communique finalement la vie. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12, nous confirme que, or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais il a offert son propre sang. Et il nous a ainsi acquis un salut éternel. L'Épître aux Hébreux confirme ce texte, ce psaume 24. Et il est évident que d'après les récits des évangiles, que ce sacrifice que Jésus a offert a été intense et douloureux, et même inimaginable pour nous humains. Mais Jésus a mené ce combat contre Satan à la croix jusqu'au bout. Et c'est ce qui justifie le propos de David qui dit au sujet de ce roi de gloire qu'il est si fort et si puissant, puissant dans les combats, on pourrait dire puissant dans le combat contre Satan, et y compris donc ce combat à la croix. Mais David n'en reste pas à ce combat de la croix. David, au verset 9 et 10, la deuxième partie de cette dernière partie qu'on a vue, eh bien, il parle à nouveau d'une entrée de Jésus dans Jérusalem. Et là, David ne parle pas d'un roi puissant dans les combats, même les combats solitaires, mais il parle de l'Éternel qui est le maître de l'univers. Et la Bible du Semeur, par exemple, traduit l'Éternel maître de l'univers comme l'Éternel Seigneur des armées célestes. C'est-à-dire que dans le premier combat, Jésus était seul contre Satan. Lorsqu'il revient, deuxième entrée de Jérusalem dont parle David, eh bien Jésus n'est pas tout seul, il a une armée céleste avec lui. Et là, nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés, et l'apôtre Paul nous le confirme, parce que nous rentrerons avec Jésus, nous accompagnerons ce roi de gloire, nous les chrétiens. Et Paul nous le dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, voilà ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dit, encouragez-vous donc les uns avec les autres par ces paroles. Et il dit encore dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, « Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur, sous-entendu ceux qui ne sont pas à Christ, et de la gloire... Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. » Or, vous avez cru à notre témoignage. Donc, nous sommes encouragés par ces textes convergents de l'Ancien Testament, ce psaume 24, et du Nouveau Testament. Je n'ai lu que quelques faibles extraits de tous les textes qui parlent de ce retour de Christ dans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes encouragés par ces textes qui nous encouragent, qui nous annoncent et nous rappelle l'entrée du roi de gloire dans son règne éternel avec ses rachetés que nous sommes si nous sommes à Christ. Et David insiste au verset 7 et 9 pour que les frontons des portes éternelles, alors là les frontons sont un peu bas, mais vous imaginez sur certains bâtiments historiques, on voit des frontons. Mais là, David dit, élevez-les encore, parce que le roi de gloire est tellement puissant, tellement grand, qu'il ne passerait pas. Donc, il faut élever les frontons. David souligne l'importance et la grandeur de cette étape du retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Et comme je l'ai rappelé dans l'introduction, il est important de nous souvenir nous-mêmes très régulièrement de la réalité de ce retour de Jésus-Christ, que nous attendons et que les événements de la vie courante nous font si souvent mettre au second plan. Et la question que je me pose ce matin est celle-ci. Est-ce que notre foi anticipe avec joie et reconnaissance ce glorieux moment à venir de son apparition ? Nous sommes tellement pris par nos affaires quotidiennes, aussi importante soit-elle, peut-être la maladie, peut-être des soucis divers, financiers et autres, que nous pouvons très facilement oublier et mettre au second plan la perspective glorieuse du retour de Jésus-Christ qui doit, au contraire, illuminer notre horizon. Voilà cet encouragement que je veux vous laisser. Peut-être qu'on ne va pas lire chaque lundi, je ne vais pas vous demander de lire chaque lundi ce psaume 24, mais souvenons-nous très régulièrement que Christ revient. Christ revient. Peut-être que vous êtes dans la panade, peut-être que vous avez une grosse difficulté, mais Christ revient. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle que je veux vous laisser ce matin. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te dire toute notre adoration face à ta grandeur, à ta puissance, à ta souveraineté, toute notre adoration parce que en plus tu as tout prévu pour nous réserver une place auprès de toi dans ton trône éternel, dans ton royaume éternel. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir durant tout cet été, durant toute cette journée, toute la semaine que tu reviens. Tu reviens bientôt même. Et Seigneur, nous aspirons à ce retour et nous voulons vraiment centrer nos regards sur toi et sur ce retour et non pas sur nos propres difficultés, nos propres limitations. Seigneur, entremets toute l'Église durant cette période de vacances. Que tu bénisses chacun richement et sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.